le cours était donné par un émigrant de la vieille émigration, un prince russe. Et alors j'arrive au cours de russe et j'avais lu dans le livre qu'on saluait. Je lui dis, «Dobry vecher, tavarish, tuchitya!» J'avais appelé camarade, et appelé camarade un prince russe. Il m'a fait comprendre que c'était la première et la dernière fois que ça arrivait. C'est une leçon aussi pour la vie et après aussi. Alors, quand j'étais à la... J'ai fait un stage d'assistant social à une école pour jeunes handicapés qui s'appelle la Crépière à Waterman-Boisfaux. Et alors, j'ai continué à prendre le bus à la rue du Méridien, où je vais souvent maintenant au centre culturel et scientifique de Russie, à la rue du Méridien. Alors, à Rome, pendant mes études de théologie, peut-être que j'ai mieux étudié le russe que la théologie, il y a des chances, et je crois, je fréquentais les cours des amitiés italo-soviétiques. Et alors, après ma théologie, après mon ordination sacerdotale ici, dans cette église, je suis retourné à Rome et j'ai continué mes études à l'Institut Pontifical Oriental, où j'ai obtenu quand même un diplôme de licencié en sciences ecclésiastiques orientales, section études russes. Et je résidais au Collège Pontifical Russe, que vous avez vu dans le film. Alors, en 1982, après ce qu'on appelle chez les jésuites le troisième an,
avant le dernier vœu, et alors, j'étais engagé le 1er mai, c'est une fête bien soviétique pour commencer un travail, donc si bien que je n'ai pas travaillé ce jour-là, et j'ai commencé le 4 mai 1982 à Radio Vatican, où j'ai travaillé comme vice-responsable du programme russe, et puis après je suis passé au programme biélorusse où j'étais responsable aussi, 14 ans, 28 ans, et j'étais aussi responsable de la bibliothèque générale. Il paraît qu'elle n'existe plus, comme ils n'ont personne, ils ont distribué des livres gratuitement. Voilà, ça c'est l'évolution. Et alors le 30 septembre 2010, j'ai terminé mon service à Radio Vatican. Et je dis une longue période, mais avec des moments différents dus à l'évolution des situations politiques et religieuses dans les pays de l'Est européen. Alors pendant les années 80, donc quand j'ai commencé, le travail de la radio, était un peu un travail apparemment dans l'ombre, qui était peu connu en Occident, qui écoutait Radio Vatican, les vieilles femmes qui écoutaient le chapelet peut-être le soir, mais pas beaucoup plus, mais c'était un travail très précieux pour les personnes qui discrètement écoutaient les transmissions de la radio en langue russe ou dans d'autres langues, que je vous ai parlé de ce qui se passait en Albanie. Et peu d'informations filtraient de leur part. Les lettres étaient contrôlées. On savait même voir si la lettre avait été contrôlée parce qu'il y avait un numéro, il fallait bien ouvrir l'enveloppe complètement. On voyait un numéro qui était le numéro du bureau de poste où on avait contrôlé la lettre. Hein. Il fallait, avec une espèce d'aiguille, on voulait la lettre, on la tirait par le bord et puis on la lisait, puis on la remettait. Parfois, ça ne marchait pas. Elle ne rentrait pas bien dans l'enveloppe, alors ça se voyait. Et un jour, j'ai reçu une lettre de la Roumanie, et j'étais un prêtre qui était contrôlé, maintenant il vient d'être nommé archevêque de Bucarest, mes amis. Alors là, ils ont décollé l'enveloppe, mais n'ont pas bien réussi à la recoller. Alors ils ont mis une bande où ils ont écrit « transit ». Une enveloppe en transit en Roumanie, elle venait de Roumanie. C'était la situation comme ça. comme peu de lettres filtraient de leur part, les lettres étaient contrôlées, le taux d'écoute était difficilement mesurable. C'est difficile même maintenant. Hein. Mais maintenant, c'est différent parce que maintenant, tout est sur Internet et chaque programme a sa page web. Et on ne parle plus d'écoute, on parle de clics. Autant de clics. Bon, si on a cliqué sur la rédaction en plus, ça veut dire qu'on a cliqué pour avoir leurs informations. Mais le souci à ce moment-là, des années 80, c'est de donner une formation chrétienne de base. Une aide à la prière à travers la prédication, les méditations. Le chant liturgique, c'est très important, surtout dans l'Église orientale, qui est une. Le chant liturgique est une école de dogme, de doctrine, et aussi une information sur la vie de l'Église, sur la vie universelle, de l'Église universelle. Parce que pour essayer de corriger un peu le travail de la propagande athée, hein, qui était bien actif en Union soviétique. Alors, quand on est arrivé vers la fin de l'Union soviétique, ce qu'on appelait la perestroïka avec Gorbatchev, mais tout ça n'était pas du jour au lendemain. Alors, mais il y a eu des changements à ce moment-là. Par exemple, j'ai travaillé, en plus de mon travail, j'allais un jour par semaine chez le cardinal Poupart, et où je faisais des traductions. C'était le président du conseil pour le dialogue avec les non-croyants. Et alors, j'allais chez lui et faire des traductions. Et il y a eu une période, vraiment une période d'enthousiasme la fin des années 80 et le début des années 90. C'était encore soviétique jusqu'en 91, mais il y avait un peu, ça commençait à bouger. Le mur de Berlin commençait déjà un peu à trembler. Hein. Alors, il y avait des articles dans la revue qui s'appelait Religia, Religia, Science et Religion, et c'était ça que je devais traduire, ou l'autre revue, Question de philosophie, va parler aussi philosophie. Et alors le cardinal, il a envoyé ça à la secrétaire d'État, et puis on montrait à Jean-Paul II. Et Jean-Paul II était content de cela, si bien qu'il a remercié. Le cardinal Poupart a reçu les compliments, mais il était honnête, il m'a apporté la lettre. Je l'ai encore, où on disait que le pape avait été très intéressé par ça. Et le pape avait été intéressé par deux choses. Que certains, quelqu'un avait écrit, c'est à propos de l'enseignement de l'histoire, quelqu'un avait écrit que pour anéantir un peuple, il fallait anéantir sa mémoire. Donc les soviétiques savaient très bien ça, et ils enseignaient l'histoire à leur façon, enfin, en montrant que c'était eux les vrais réformateurs du monde. Et bon, ils travaillaient beaucoup sur l'enseignement de l'histoire. Et ça a plu à Jean-Paul II parce qu'il le savait très bien. Et l'autre chose qui avait plu, peut-être encore plus à Jean-Paul II, c'est que j'avais aussi traduit quelque chose où c'était plutôt des témoignages de gens qui avaient été éduqués et qui avaient grandi dans l'athéisme, soi-disant scientifique, mais dans l'athéisme et qui étaient arrivés à la foi grâce au vocabulaire qu'ils avaient trouvé dans la propagande athée. Alors, ils lisaient des articles et puis, bon, ils apprenaient des choses sur la religion, au moins un peu de vocabulaire. Alors, s'ils continuent à creuser un peu, certains sont arrivés à entrer dans la foi, dans l'Église. Alors, à ce moment-là, on ne voyait pas beaucoup les fruits du travail accompli à Radio Vatican, mais c'était, enfin, pour ma part, je garde le souvenir que j'avais fait avec un grand enthousiasme. j'ai toujours été attiré un peu plus par le travail pastoral que par, que par des démarches intellectuelles. Et je me sentais à ce moment-là plutôt comme le curé d'une paroisse des Ondes. Et ça, ça m'a toujours impressionné. Et la célébration de la liturgie byzantine en slavon, après de la liturgie romaine en russe, à partir de 1993, c'est tard, et ça faisait partie de ce travail pastoral. Puis petit à petit, alors, des lettres sont arrivées. C'est aussi à cette période, parce qu'on en a parlé avec Rita, quand elle a parlé du cardinal Sloskamps, du Monseigneur Sloskamps, dans le procès de béatification est en cours, et on a parlé, elle a parlé du bon et du moins bon, de ce qu'on appelait l'ostpolitik, la politique de l'Est du Vatican. Et à Radio Vatican, on n'était pas trop encouragé à appuyer les revendications, par exemple, des dissidents, pour ne pas provoquer des réactions trop fortes de la part des autorités. On essayait de sauver ce qu'on pouvait sauver, mais sans trop le dire. Et alors, j'aimerais aussi rappeler de quelque chose. À mon arrivée à Radio Vatican, le responsable du programme russe était un Belge, le père Vosselt. Et alors, le dimanche, il transmettait les conversations. C'était publié à l'avenue de la Couronne, des conversations avec un prêtre de Moscou qui s'appelait le père Doutko, Dimitri Doutko. Mais alors on ne disait pas son nom à la radio. On disait conversation avec un curé de Moscou. Ici, il dit Smaskovski, monsieur Stenikov, monsieur. Et alors le père Vosseut, il a fait ça pendant un certain temps. Puis est arrivé à Rome un personnage important du patriarcat de Moscou qui vit toujours, un peu le numéro 5, mais dans la hiérarchie, le métropolite Juvenal, il est venu et il a dit c'est fini hein, de transmettre ce genre de choses, il faut arrêter ça. Alors, ça c'était la ligne de l'ostpolitik de ce moment-là et qui imposait aux responsables de la rédaction de changer le programme du dimanche soir. Un peu plus tard, on a pu, alors ça c'était dans les années déjà 90, on a pu interviewer des personnes qui avaient des difficultés, qui passaient par Rome. Fin des années 80, début des années 90. Et je me souviens avoir présenté au pape Jean-Paul II un dissident qui s'appelait Vadim Steglov, qui est émigré au Canada, mais je crois qu'il est retourné en Russie, il n'y avait pas de nouvelles. Et il apportait au pape Jean-Paul II, donc je vais traduire tout ça, au pape, un dossier sur les chrétiens persécutés. Et ce dossier avait été préparé par un prêtre qui lui aussi a eu des difficultés, qui est mort maintenant, Père Gilles Yakounine. Et il avait cette grosse enveloppe rouge, pleine de détails. Et alors, il y avait aussi un autre qui était un dissident, Anatoly Levitin Krasnov, qui avait été diacre de l'Église vivante. Et puis, il y a eu un évêque pentecôtiste qui avait été dans les camps de concentration en Sibérie, il était évêque pentecôtiste de Nakhodka. Il avait été dans les camps avec un jésuite qui vient d'être nommé cardinal maintenant, voilà le dernier cardinal, le cardinal lituanien Tankevičius. Et ce protestant avait apporté au pape la chemise de ce père jésuite, maintenant cardinal. À la fin de mon service à la radio, j'ai reçu et interviewé la Biélorusse Svetlana Alexievitch, et elle est mal vue dans son pays même maintenant. Elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2015. Elle a écrit un livre qui existe en français, qui est plus qu'un, mais le Prière de Tchernobyl. Et c'est plutôt Tchernobylska Malitva, où elle parle de des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl qui était le 26 avril 1986. Et Svetlana a écrit son livre, Alexievitch. Elle a écrit son livre en 10 ans après, en 1996, en montrant combien ça avait fait des dégâts et ça en faisait encore, parce que l'eau, les champignons, les légumes, et bon, moi-même, je me suis occupé d'un petit sage qui est mort de ça, de la, comment on appelait ça, de la leucémie. De la leucémie. Et alors, elle montrait aussi les conséquences pour ceux qui avaient été chargés d'aller essayer de maçonner un peu vers un sarcophage, comme on disait, et purifier un peu le terrain. Ceux-là ont risqué leur vie, beaucoup sont morts ou ont eu des cancers et en sont morts. Par exemple, je connais un prêtre ukrainien qui était de ce genre. Lui, il a survécu et il est toujours bien vivant. Bien vivant. Il en a aussi publié à l'avenue de la Corne sur lui, le père Gavril. Voilà, mais il y a un bout de temps. Et un événement pour moi qui était assez. Assez décisif dans ma vie, c'était l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya qui a parlé des événements surtout liés à la Tchétchénie. Et puis bon, elle est rentrée avec sa bouteille de lait, elle n'est pas arrivée dans son appartement. Et chez moi, pour moi, cet événement a provoqué un déclic. Alors à ce moment-là, j'ai décidé, je l'ai payé un peu après, de ne plus me plier ni aux censures, de ne plus me plier aux censures d'où qu'elles viennent. De l'Église, du Vatican, de l'État, de l'ambassade et tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, l'époque de... Oui, j'ai quand même montré un peu pour faire un peu de diversion. Montrer des photos de Radio Vatican. Ça, c'est une photo de Radio Vatican, mais avec d'autres. C'était vraiment quand on avait inauguré c'est même écrit Carlo Voitura, qui était Jean-Paul II, mais c'est le pape suivant qui l'a béni. C'est Benoît XVI qui a béni ce studio. Voilà. Le studio, c'était écrit Studio Carlo Voitura. Et quand Benoît XVI a visité Radio Vatican, il a béni ça. Ici, je me trouve plutôt, pas avec des collègues directs, mais c'est un peu pour le décor, que j'accompagnais dans des Bulgares. C'était des Bulgares. Les gens qui sont avec moi sur la photo. Ah non, c'est pas ça. Voilà, Radio Vatican. Et ça, c'était mon bureau. Évidemment, on était dans les années 90 et après, c'était presque avant 2000, même un peu après, on utilisait beaucoup l'informatique et tout je pense que je gardais là des informations, certainement, à côté d'une poupée biélorusse, dans le studio. J'étais responsable du programme, donc je devais m'occuper de la programmation, et quand tout était prêt, de mettre les morceaux ensemble, l'appareil un peu à gauche, on va voir aussi. Voilà, ça c'est un système nouveau. Maintenant ça a encore évolué évidemment, ça s'appelait Netia. Alors on voit à gauche sur l'écran des, comme une colonne. Et c'est tous les morceaux du programme. Alors moi, quand mes collègues avaient fait chacun leur morceau, je devais mettre les morceaux l'un au-dessus de l'autre, en dessous de l'autre. Et à la fin, quand on arrivait, je ne sais plus combien de minutes, j'avais une vingtaine de minutes, alors on ficelait le programme, et puis il fallait aller le consigner ou l'envoyer au secteur où on transmettait. Puis il fallait compter toutes les minutes. C'est ce que je faisais. Alors je devais faire un papier. C'est ce que je faisais. On m'a vraiment pris là dans mon dans le feu d'action sur cette photo-là que j'ai trouvée. Je ne sais même pas qui l'a faite, je ne me rappelle pas. Ça devait être 2009. C'était aussi mon bureau. Il fallait revoir les textes aussi. Vous voyez qu'il y a l'Osservatore Romano. Puis on voit que j'avais toujours des contacts quand même avec certains milieux, Larche, Jean Vanier, tout ça. On voit Ombre et Lumière, la revue qui est là. Et puis on voit le dictionnaire biélorusse. Il y a même le catalogue de la Compagnie de Jésus. Et puis qu'est-ce qu'on voit encore sur cette table? Le calendrier orthodoxe et au-dessus une étoffe. Parce que ça servait aussi. Voilà. Alors, est-ce que je suis dans tout ça? Oui, ça j'ai quand même déjà dit. Je regarde parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Ah oui, une grande révolution, que j'ai dit pendant le film. L'arrivée de l'Internet, évidemment, a été une grande révolution parce qu'on était mis au courant de tout et tout de suite. Alors, on ne pouvait plus nous raconter des histoires parce que, alors, par exemple, oui, différents exemples, je n'en donne qu'un. Il y avait une jeune Biélorusse qui avait été manifestée contre le président quand il avait été réélu, je ne sais, pour la 40e fois. Il y avait quand même eu des réactions et de la part de croyants et pour la liberté et pour la foi. Et pour les jeunes en avaient marre. Alors ils ont fait une manifestation. Une fille que je connais, elle est même venue ici. Et qui fait partie d'un mouvement religieux qui s'appelle l'Ichtleben Światłożycie, c'est polonais. Et alors, elle était dans les manifestants. Et elle essayait d'arracher un qui était arrêté, donc de le retirer des mains de la police. Elle fait comme ça. Et on voit derrière elle un policier avec avec une matraque juste prêt à lui taper dessus. Évidemment, ils savaient qu'on les prenait, ils l'ont laissé. Mais entre-temps, celui qui avait fait la prise de vue, ben, il l'a mis tout de suite sur Internet. Donc tout le monde l'a su. Ça, c'est une révolution, hein. Avant, il y a eu d'autres choses. Mais... Et on a eu aussi à la radio la visite de personnages intéressants, comme l'écrivain Valentin Rasputin, qu'on appelait le chantre de la Sibérie. Et il m'a offert et dédicacé en 1988 un de ses livres intitulé « Vie un siècle aime ». Vie un siècle, aime un siècle. Peut-être que Niga Rasputin. Vieux, 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 Vieux Et alors, il m'avait dédicacé son livre, mais mes archives russes sont à l'église orthodoxe russe maintenant. J'ai mis ça chez le père Paul, à l'église de la Trinité. Alors, il y a eu le fameux peintre et portraitiste. Il aimait bien les jésuites, en fait, un orthodoxe, mais il y a Glazounov. Il est mort, voilà, quelques mois. Il était venu à Rome pour apporter au pape Jean-Paul II le portrait qu'il avait fait de lui. Et comme il était d'une grande dévotion pour le pape de Rome, il a apporté son portrait à Jean-Paul II. Mais en même temps, il avait une dévotion pour les jésuites, il voulait faire quelque chose. Quand il a su que j'étais jésuite, il s'est incliné presque jusqu'à terre en me baisant la main. Je le bénissais et puis je lui avais offert un livre en plus du père. Il y avait un père Bock qui avait écrit la retraite de Saint Ignace, mais avec les méditations expliquées. Alors il y a eu aussi le fameux que Michel a connu, le père Alexandre Mienne, qui était venu à Rome. Il est venu 2 mois avant, il était assassiné le 9 septembre 1990, et il est venu 2 mois avant, au mois de juin. Alors je lui avais dit qu'il avait écrit un petit, pour préparer les gens au baptême, il avait écrit un petit, avec un autre qui vit toujours, le père Borisov, qui est à Moscou. Maintenant, ils avaient écrit une espèce de catéchisme qui s'appelait Natchala Puti Christianina, le début du chemin du chrétien. Et alors je lui avais dit que quelqu'un de mes amis à Radio Vatican avait traduit ça dans la langue bulgare. Et il avait été très ému de ça, très content. Il avait un large sourire, mais qui était toujours un peu donc, comme ça, parce qu'il était préoccupé. Il sentait sans doute ce qu'il attendait, comme d'autres. Alors on a eu des écrivains, des académiciens, de Valentin Nikitin. Ça, c'était un vieil auditeur de Radio Vatican. Il pouvait encore imiter le premier prêtre qui a commencé à Radio Vatican en 1948, je crois, le père Chevelioff. Et comme il disait, bon, la Russie, c'est loin, donc il faut crier fort, comme moi je dois faire maintenant, crier fort dans le micro, parce que d'abord on brouillait, il avait raison, mais il faut qu'on entende jusqu'en Sibérie. Alors il parlait très lentement, très lentement, un mot après l'autre, et le plus fort possible. Et ce Nikitin, Valentin Nikitin, il est mort il n'y a pas longtemps. Il m'a écrit ici, pas longtemps avant de mourir. Il a voulu retourner dans son pays d'origine, la Géorgie, et il était le parent du martyr, le père Pavel Florensky, qui est connu, qui a écrit des choses très savantes et très belles en même temps. Et il est retourné en Géorgie et puis il a voulu aller nager et il n'en est pas revenu. Et vraiment, un peu avant, je ne sais plus, il m'avait écrit, je ne sais plus à propos de quoi, mais c'est encore dans l'ordinateur. Et alors aussi, il y a le fameux, ça c'était, il y a deux personnes qui ont été reçues dans l'Église catholique par Jean-Paul II, mais sans faire de grandes affiches. Il y avait la directrice de la pensée russe, comment est-ce qu'elle s'appelait? Merci. Celle qui était à Paris, Alberti. Ah oui, madame. Enfin, celle-là. Je l'ai connue. Alors. Et Serge Averitsev qui était, lui il s'est sauvé parce que les soviétiques ne comprenaient pas ce qu'il écrivait, comme il écrivait de l'histoire de la Grèce, et il mettait de la patristique dans tout ça, il n'a pas eu beaucoup d'ennuis. Et c'était un juif, il était malin, il arrivait bon. Et alors, il fallait l'entendre lire un psaume à du Vatican. Je lui ai fait, j'étais devant lui, écouter quand il a enregistré six psaumes. C'était une vraie liturgie. Alors, autre chose, la famille de Gorbatchev. Ça, c'est intéressant parce que il y avait un soldat, italien qui, pendant la guerre, il avait connu une jolie russe, et puis bon, il ne s'est pas marié avec la jolie russe, elle était orthodoxe, elle était bon, c'était un Russie, lui c'était un italien, bien catholique. Bon. Et alors il est revenu en Italie, il s'est marié, il a eu des enfants. La belle russe s'est mariée, il a eu des enfants aussi, était veuve. Mais il se fait que c'est une parente de la femme Raïssa de Gorbatchev. Et alors, mais ça on ne sait pas ces choses-là, ils se sont retrouvés, peut-être, autant Gorbatchev, hein, parce qu'il a, Gorbatchev, c'est un, il ira, c'est comme il est orthodoxe, il ne croit pas au purgatoire, mais il ira quand même. Parce que bon, il y a quand même des choses, il y a Tchernobyl, il y a la, les tanks en Géorgie, bon, tout ça, il doit se confesser. Mais il faisait quand même des choses, parce que la mère de Gorbatchev vendait les bougies dans son village natal. Et alors, vendait les bougies à l'église. Mais celle-là, elle vendait les bougies, mais elle recueillait des petits, des billets de prêtres et de gens. Et tout ça était envoyé à Rome. Elle dit, il nous faut de l'encens. Il fallait trouver un demi-kilo d'encens. Et puis, il me faut un mystère. Il me faut un trébnik. Trébnik, c'est le lit pour les sacrements, le rituel. Alors, il venait chez moi, parce que j'étais responsable de l'église de Rusticum. Et puis, comme mon prédécesseur était mort, j'étais aussi responsable du magasin, de notre magasin. Et alors, je faisais des petits paquets et je donnais à la russe qui avait trouvé son. S'était mariée avec le vieux soldat. Et puis, elle vivait en Italie. C'est une personne très pieuse, elle faisait des signes de croix tout le temps. Bon. Et alors, je lui remettais, et puis elle envoyait tout ça à Gorbatchev. Les missels, l'encens, les icônes, tout le bazar, elle envoyait tout ça à Gorbatchev, et à travers Gorbatchev et sa mère, tout ça allait dans les paroisses. C'est des choses qu'on ne connaît pas, ça avait lieu comme tout, mais c'est quand même des petites choses, mais qui montrent que bon, le Saint-Esprit existe. Alors, qu'est-ce que j'écris encore ici? Oui, quand j'avais fait mon premier texte, j'écrivais que je recevais encore bien. Je recevais maintenant encore ici des lettres de gens qui ont écouté Radio Vatican, déjà communiqué. C'est plutôt des messages, des mails. Alors ces gens-là, bon, certains sont morts et maintenant je ne reçois pas. Je reçois des mails, c'est plutôt sur Facebook, des likes et des machins comme ça, des réactions. Alors, et ça a donné naissance à des liens profonds d'amitié spirituelle. Bon, il n'y a pas eu de prosélytisme, comme je l'ai dit dans le film, mais le sens, le sentiment de l'appartenance à la seule Église du Christ. Et vraiment, moi, je vivais très fort de tout ça, encore un peu maintenant, évidemment. Ça, c'était. Et alors, les catholiques, il a fallu attendre Gorbatchev pour avoir les contacts avec les catholiques. Et la visite de Gorbatchev au Vatican en décembre 1989, c'était comme un souffle, hein, on était là, quelle fatigue, mais on était là devant un grand écran Tobal du Vatican, ceux qui faisaient la chronique, c'était autre chose, ils étaient dans le Vatican et nous on était là. Et alors, la visite de Gorbatchev est un grand événement, et puis alors on était devant l'écran, et alors Gorbatchev à un certain moment dit très sainte, pour votre sainteté, je vous invite à visiter la Russie. Alors c'était un ouragan d'applaudissements. Et il y avait un jésuite hongrois qui étudiait en Belgique, le père Szabo Ferenc, qui a crié « Bravo Gorbatchev !» qui a crié « Waouh !» C'était beau. Alors après ça, bon, après la visite de Gorbatchev, il a quand même fallu travailler un peu, même ce jour-là. Alors après ça, j'ai dû traduire une lettre du pape Jean-Paul II au patriarche Kimien de Moscou. Et Jean-Paul m'a fait jurer, hein, quand je devais même rapporter le brouillon de lettres de ma traduction de ce que je devais faire. Et puis, quand j'étais chercher ça au Vatican, et le Monseigneur, il arrive, je vois encore une Bible rouge, et il m'a dit, révérend père, mettez votre main là-dessus. Et bon, il faut que je vais, que vous ne direz rien. Quand j'ai mis la main, j'ai rien dit. Et puis après, j'ai trouvé la lettre dans la revue, ils ont parlé de communion et libération. C'est un jésuite d'ailleurs, le père Jacques Servet qui a. Bon, c'est de vieilles histoires. Alors, dans cette lettre, on demandait au patriarche Pinien d'intervenir pour que les catholiques ukrainiens de rite byzantin puissent obtenir la liberté de culte. Ici, j'ai écrit les Ukrainiens, mais il n'y avait pas que les Ukrainiens, il y avait de l'Irak, les Chaldéens. Il y avait des Chaldéens en Russie. La première mission chrétienne, à part les Byzantins, c'était des Chaldéens qui venaient de Chine. Et alors le pape demandait la liberté pour eux, évidemment, aussi pour ceux de rite latin. Alors, plus tard, il y a eu la visite de Boris Yeltsin, qui est venu chez Jean-Paul II. Et alors, on m'avait appelé, on m'avait dit, il faut être debout en sautant dans le coin, là, pas bouger. Si on a besoin de vous, il n'y avait pas besoin, parce qu'ils avaient leurs interprètes, et puis c'est pas moi qui étais interprète pour l'entretien avec le pape. J'étais juste là comme un bouche-trou, s'il fallait. Mais au moins, j'ai vu le protocole de la visite d'État, avec toute la garde de Suisse, et puis j'ai vu que qui commandait chez Yeltsin, c'était sa fille, le père qui dirigeait tout le bazar. Ah oui, c'est assez intéressant. Bon. Alors, et c'était la période de la pleine force de Jean-Paul II et de son appel à ne pas avoir peur, à ouvrir les portes au Christ. Et j'ai eu quand même, j'en ai déjà parlé, des rencontres privilégiées avec ce pape charismatique, bon, la répétition de discours. Même une fois, oui, le pape, quand il n'était pas sûr, alors un jour, il devait dire pas grand-chose, hein. C'était que 3-4 lignes, bon. Et alors, il a dit, il faut me faire une cassette. Alors, j'étais dans un, dans un studio, et j'ai enregistré la cassette, je ne sais combien de fois, parce que d'abord très lentement, mot par mot, en mettant bien les accents, et puis à la vitesse normale. Donc le pape, bon, presque il écoutait la cassette, il répétait. Alors il fallait lui préparer le texte aussi, il fallait le translittérer en polonais. Donc j'ai appris ça aussi, je le fais très facilement encore. Et alors, il fallait lui, pour les accents, alors c'était compliqué avec lui quand même, parce qu'à la fin, au début, oui, on mettait les accents comme ça, mais à la fin, il disait, il faut mettre les lettres plus, la lettre ou l'accent, qu'elle soit plus en caractère grave, pour mieux souligner votre thèse. C'était un truc aussi simple. Alors, j'ai parlé de Poupart. Oui, ça, c'est ce que je viens de raconter. Alors, oui, ça on peut laisser. Il y a eu des collaborations avec d'autres institutions. J'ai été aussi appelé à collaborer. J'avais payé un peu après aussi là, avec Radio Europe Libre, Free Europe. Si on vous donnait des informations, c'était pas toujours très bien vu. Quand il y a eu la visite de Loukachenko, le dernier dictateur en Europe, disait Condoleezza Rice, était venu au Vatican. Là, j'ai eu des problèmes. Mais parce que je donnais des informations oui, au Vatican, mais en même temps à Radio Free Europe, et même à la télévision biélorusse. Alors les opposants au président Loukachenko, se faisaient entendre aussi, et ils avaient raison, et je donnais des échos à ça. Heureusement qu'il y avait l'actuel secrétaire d'État, le cardinal Parolin, qui était un monseigneur à ce moment-là, il m'a aidé beaucoup. Et quand il était consacré évêque, il m'a invité à son ordination. Alors, il y a eu les collaborations aussi avec le mouvement Communion et Libération, qui avait le revue qui s'appelle 30 giorni, 30 jours, et le directeur était le fameux Andreotti. Certainement, l'a connu. Et alors, Andreotti avait voulu faire un acte politique. Puis c'était le premier et le dernier numéro de 30 giorni, 30 giorni en langue russe. Et on n'a eu qu'un, le premier et le dernier. Ça veut dire que ça ne peut pas apporter de grands fruits politiques pour Andreotti. Mais j'ai dû collaborer à ça parce qu'il y avait des interviews et le vocabulaire religieux était complètement massacré et il fallait tout corriger. J'ai dû travailler pour cette histoire-là, pour pas grand-chose. J'avais gardé comme une relique ce numéro de Andreotti, mais puis je l'ai donné parce que comme une relique, hein, après ça, il n'y en a eu qu'un. Je ne l'ai plus, je l'ai donné avant de quitter Rome. Enfin, ça c'est... Ah oui. Oui, aussi une autre histoire avec les communions et libérations, ce qu'on appelait le Tamizlat. Et alors, ils m'ont fait une interview pour la revue qui s'appelle L'Altra Europa, qui existe toujours. Et alors, on m'avait demandé de parler de ce qu'ils appelaient le Tamizlat. Il y a le Tamizlat, le Samizlat et le Gossizlat. Le Tamizlat, c'est le texte interdit par la censure de l'État et qui sont publiés à l'étranger, avec ou sans l'accord de l'auteur. Et puis, ils sont introduits, c'est la fameuse de Communion et Libération, qui est en contrebande en Union soviétique. Le Samizlat, c'est ce qui était produit sur place. Ce n'était pas des textes officiels, mais par exemple le père Alexandre Mien, ça c'était du Samizdat. On le publiait à Bruxelles, mais on ne mettait pas son nom, on mettait un pseudonyme. Donc c'était de la littérature clandestine. Mais alors la seule chose qui était admise, c'était le monopole du Gossizdat. Goss, ça veut dire l'État, l'édition officielle de l'État. Et ça c'était permis. Alors, j'ai donné, dans cet article sur le Tamizdat. Oui. Oui. Oui.
On passe aux questions peut-être.
Non, parce que je n'ai pas fini. Bon. C'est que la page 3. Alors, non, je peux je voir un peu si on peut. Je vais parler aussi de l'église. Attends,
j'ai encore quelques dias là.
Hein?
J'ai encore quelques dias à montrer.
Oui. Oui. Ah, c'est cool. Mais ça, c'est la plus jolie. Ah, c'est la plus jolie. Ça, c'est la.
Quelle nationalité?
C'est une tata, mais c'est ça que je parlerai après. Et c'est moins joli, mais c'est très joli. Elle est très gentille. Et alors, ça, c'est. Ça, ça va. Alors. Il faut passer à beaucoup de choses. Oui, ça j'ai raconté quand même des histoires de la Biélorussie. Ah oui. Oui, à Radio Vatican, un certain revers de la médaille était l'apparition parmi les collaborateurs de la radio de ce que d'aucuns ont appelé des catholiques de profession. Des gens qui ont, grâce à la liberté, à partir de Gorbatchev, et qui ont eu la possibilité de recevoir à l'étranger un salaire plus élevé que ceux de leur pays d'origine. Même si on est mal payé au Vatican, c'était des capitalistes chez eux. Alors ils se sont découverts une vocation de militants catholiques, parfois sans base catéchétique et pratique religieuse. Et ça, c'est une condition de la. Une conséquence de l'éducation communiste athée. On a eu affaire à ça aussi. Alors, et ça, c'était dans ma période à peu près 96, quand j'étais responsable du programme biélorusse. Je peux laisser ça. Où j'ai dû assister humblement, j'ai écrit, en renonçant parfois à l'affirmation de ce que je croyais profondément, j'ai dû assister au réveil et à l'auto-affirmation d'une culture et d'une langue biélorusse, accompagnée d'un certain revanchisme à la fois à l'égard de la culture russe, de la sensibilité orthodoxe et aussi du caractère polonais de l'appartenance à l'Église catholique. Alors vous étiez le témoin un peu impuissant d'attitudes décidément agressives à l'égard de tous et de tout. Et c'est ainsi qu'une langue peut devenir le véhicule de revendications, juste ou non, et pas seulement moyen de communication avec les frères et avec Dieu. Et ce problème des nationalismes, on le voit maintenant avec les questions entre les orthodoxes sur les lettres, ce que je n'insiste pas, mais quand même quelque chose, j'en ai parlé dans le film, mais sans le dire, un résumé de mes années à Radio Vatican, et puis après ce qui vient, peut-être moins, bon, c'est sur l'église, tout aussi comme, mais là j'ai pas beaucoup. Alors quand j'ai quitté Radio Vatican, il y a une certaine Tatiana Kredichevskaya, et qui est une russe de Paris, comme on l'appelle, était née à Paris. Elle a étudié chez la sœur de Sainte-Clotilde, bon, puis elle s'est mariée avec un Italien, qui est mort maintenant. Elle a travaillé, elle vient encore à Radio Vatican, elle a plus de 80 ans. Et alors elle m'a écrit une belle lettre quand j'ai quitté Radio Vatican, pour que ça aille plus vite, je l'ai traduit directement, et je la lis en français. Et alors elle écrit, cher Père Claude, pendant de nombreuses années, nous avons vécu ici en servant à Radio Vatican. Et voilà, au nom de tous ceux qui, hélas, ne sont plus parmi nous, je veux vous exprimer toute notre reconnaissance, notre respect et notre amitié provoquée par la collaboration avec vous. Je voudrais particulièrement vous remercier pour votre bienveillance à l'égard de nous tous, malgré nos défauts. Ainsi, recevez cette petite boîte, car au Bochkou, elle écrit. Une petite boîte qui est aussi vieille que la monnaie, j'ai l'impression. Reznik, ça devait être un juif, l'homme de la boîte. Une petite boîte franco-russe en mémoire de notre service commun au peuple, mais les peuples au pluriel de la Russie, au peuple de la Fédération russe, on dirait maintenant. Elle dit, en ce temps-là, on nous a enlevé notre patrie, mais on n'a pas pu nous enlever notre foi. Ils nous ont tout pris en nous laissant seulement 3 kopecks. Et ces 3 vieux russes, chers kopecks, qui m'étaient restés, je vous les transmets en signe de la reconnaissance pour tout ce que vous avez offert à la Russie. Je crois que le jour arrivera où nous serons tous une seule chose, comme le veut notre Seigneur Jésus-Christ, de la part de tous vos collaborateurs. Merci, avec mon estime, Tatiana. Voilà, j'étais assez ému de ça, et voilà là, c'est pas 3 kopecks de l'an dernier, c'est 3 kopecks de 1892. Voilà. On l'entend. Les kopecks après, on les a... c'était comme les cents maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Il y avait... Qu'est-ce qu'on fait? Et 80, il faut laisser un peu aux questions. Je vais quand même passer, même si c'est intéressant, la partie sur mon église. Je vais simplement montrer les photos de l'église et puis c'est une église où voilà, ça c'est l'église où on faisait la bénédiction des eaux, le 6 janvier. On faisait tout le rite de Papillon. Quand il a fondé le Russicum, il a dit nec plus, nec minus, nec aliter que dans le rite synodal russe, que dans l'église orthodoxe russe. Nec plus, nec minus, pas moins, nec aliter, pas autrement que dans le rite de l'église orthodoxe russe. C'était dans bulle de fondation, comme on dit, du collège pontifical russe. Il y avait aussi le monastère de l'Adoption. Alors, ça aussi, ça c'est dans l'église. Je ne sais plus qui a fait cette photo, je ne sais plus quand c'était. C'était plutôt vers la fin de mon séjour. C'était le temps de Noël, parce qu'on voit un sapin. Voilà, ça c'est le Russicum. Et alors maintenant, bon, je vais quand même passer à la fin. Mais, oui. Donc j'étais recteur de l'église à partir de 1985. Et alors j'étais jusqu'en 1982 à 2012. Je célébrais dans cet même avant parce que j'étais ordonné avant, mais attaché au service de l'église officiellement après mon troisième en 1982. Et il m'est arrivé de baptiser des Russes qui n'avaient pas été à l'époque soviétique. On avait peur, on ne baptisait pas. Et si des gens voulaient se faire baptiser ou se marier dans mon église et non chez les orthodoxes, je leur disais toujours qu'ils devaient aussi respecter l'église orthodoxe, ne jamais la critiquer, certainement pas devant moi. Et je disais la même chose à ceux qui venaient des républiques à majorité musulmane, des Tatars. Je disais, vous devez respecter l'héritage culturel et religieux du milieu où vous êtes né et avez grandi, et qui vous ont quand même fait du bien. Alors, l'écuménisme, plutôt, ah oui, Ah oui, ça c'était quand je devais traduire pour Jean-Paul II. Ça c'est une petite, une fille de Tchernobyl. Alors je devais la présenter au pape, elle venait pour contrôler. Il venait souvent contrôler les radiations un peu, manger de la nourriture un peu meilleure, boire de l'eau qui n'était pas contaminée. Et cette fille-là était une de ceux-là. Alors j'expliquais tout ça à Jean-Paul II, on voit qu'il était préoccupé par ça et qu'il est plein d'affection pour cette fille. C'est une photo que j'aime beaucoup, qui est dans ma chambre. Ça c'est toujours près du Vatican. Ça c'est toujours près du Vatican. Ça c'est au collège russe, dans le réfectoire, qui était aussi comme dans les monastères russes. Ça, c'est revenir viendra. Alors, l'écuménisme ici. Bon, sur les photos, on voit souvent des caméras en main de chacun. Mais ça montre qu'il faut trouver les moyens qui rapprochent. Et c'est ça avec l'archevêque Simon de l'église orthodoxe russe ici à Bruxelles, l'évêque de Belgique et de Bruxelles et de Belgique du patriarcat de Moscou, l'archevêque. Simon, et on s'entend très bien, comme vous voyez. Et il y a aussi des conférences dont j'ai parlé, où je suis le seul catholique à être invité. Tout ça, c'est des prêtres orthodoxes, c'est simple. Certains viennent de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, certains viennent ici de Bruxelles. Et alors, cette fois-là, en général, je vais, j'écoute, je ne parle pas. Et cette fois-là, j'ai parlé du livre du père Bernard Joissard, qui était sur la correspondance de deux jésuites russes, le père Martinov et le père Gagarin, qui sont les fondateurs de la revue Études, et qui étaient donc des catholiques jésuites, c'était des nobles russes, et leur correspondance avec un volandiste ici. J'ai lu tout le livre, je suis peut-être le seul lecteur, que ce n'est pas, c'est pas folichon, mais enfin, c'est toujours le livre. Pour ceux qui s'intéressent, alors j'avais parlé de la bibliothèque des Volandistes et de ce livre-là, parce que j'avais dû faire une présentation en plus, donc le texte était déjà prêt. Et à la conférence de ces gens-là, je l'avais fait. Alors aussi un thème qui m'est cher, parce que, et puis, avec Tatiana qui est là, elle connaissait, on a les mêmes amis, et qui sont les Tatars, je crois qu'elle vient de là aussi. Et alors, ici, c'est dans ma chambre, avec des gens, on était de trois confessions, catholiques, orthodoxes, ces deux-là, et musulmans, Lydia. Et tout ça pour parler de la fameuse icône de Kazan que Jean-Paul II leur a rendu, et pour laquelle ils ont la mère de Jésus. Quand j'entends la radio des musulmans, ici des arabes, on dit la très sainte Vierge Marie, on ne dit pas Marie comme ça. Et alors, ça c'est avec eux ici, et voilà l'icône de Kazan. Et alors, et voilà la. Ça, c'est une ballerine. Elle est jolie, c'est vrai. Elle a eu le prix de beauté en Russie. Miss Tatar. Et alors, elle a voulu faire les photos avec moi, justement, parce que j'avais parlé à leur petit groupe, et Tatiana, qui était là aussi, devant la voix sur l'autre photo, dans la plaque. Et parce que je leur ai parlé de l'icône de Notre-Dame de Kazan. Alors, c'est un grand respect pour ça. Alors ça, on a fait un selfie. Oui, il y a une autre photo, mais on voit Tatiana qui filme pendant que... ça c'est les Tatars musulmans. Et puis une autre découverte écuménique pour moi, voilà, cette dame-là, elle s'appelle Nazeh Babaeva, elle est l'équivalent de Lilia, c'est la chef des Tatars en Belgique, et celle-ci c'est les Yézidis. Les Yézidis, c'est une religion monothéiste. Ce sont des Kurdes qui sont en train de se faire massacrer pour le moment par l'État islamique. Ce sont des Kurdes en Syrie pour le moment. Des Kurdes, et j'ai encore vu tout à l'heure, elle donne des nouvelles sur son Facebook, Nazeh Babaeva. Ce sont des monothéistes qui ne sont pas musulmans, des Kurdes qui ne sont pas musulmans. Et alors justement, l'autre jour, j'étais avec elle, cette dame-là, elle me dit « Ah, ben nous on n'a pas d'église, les Yézidis, le matin, on prie le soleil, puis on est tout content d'aller à l'église si on entend sonner, et puis qu'à la fin du Ramadan, on va à la mosquée, à part qu'on va à l'église orthodoxe, et on aime beaucoup les églises, on aime beaucoup la prière, mais on prie chez nous, c'est assez intéressé d'entendre aussi cette personne-là. Alors, les contacts avec les musulmans aussi, là je dois en prendre beaucoup. Il y avait la journée porte ouverte à l'église Sainte-Marie, mais ça je la connais, j'y allais dire la messe pour les Italiens, j'ai pas été là, j'étais là. J'étais avec les Arméniens, à Saint-Josse, avec d'autres Russes. Et alors après, j'ai été quand même à la mosquée, c'est un peu compliqué d'y arriver, j'ai été reçu vraiment comme un frère. Et ici, on a fait une belle photo avec l'imam, qui est jeune, qui a une bonne voix. Il n'a pas besoin d'un micro dans la poche comme moi, mais enfin, il en avait un quand même. Oui, alors ça, c'est avec les musulmans. Et puis, ça, c'est dans notre église ici. Les orthodoxes macédoniens célèbrent la Pâque. La Pâque orthodoxe, il ne faut pas courir en ville, il faut venir ici. À l'église, vous aurez toute la célébration avec le prêtre et un groupe de ses fidèles. Et moi, je suis toujours avec eux, c'est devenu des amis. On ne peut pas célébrer ensemble parce qu'on n'a pas la communion eucharistique ensemble. Mais enfin, on peut. Comme vous le voyez, on s'entend très bien. Et une dernière. Et comme ça, voilà. C'est ce que c'est pas là qu'on voit. Elle revient souvent. Mais il y a des icônes aussi. Ici, c'est à l'église. Malheureusement, je ne peux plus y aller avec toutes les bagarres qu'il y a entre les orthodoxes, les russes, les grecs et les... Et ça, c'est le père Christophe d'Aloisio. Maintenant, il s'est mis sur le patriarche de Roumanie. Avec lui, on peut toujours... J'avais fait mon mémoire de licence, justement, sur le diocèse ici. Et puis, ils sont passés à Moscou. Ça, c'est leurs histoires dans lesquelles je n'entre pas. Mais ici, pour moi, c'était un honneur ce jour-là, première et dernière fois, de prêcher dans une église orthodoxe. Quand même. Je remplaçais le père Xavier Dijon. Enfin, il m'avait demandé de remplacer, si j'avais su, je me serais mieux préparé. Mais enfin, c'était pour l'A4, la nuit des veilleurs, comme ils appellent ça. Et la nuit des veilleurs à Bruxelles, c'était à l'église Saint-Nicolas Pantéléimon, à la rue de Mottes. Et le monsieur à côté de moi, c'est le père Christophe d'Aloisio, prêtre orthodoxe. Et devant moi, j'avais madame le pasteur, je ne sais plus comment, de Tavernis, de l'église protestante du Botanique. Et voilà, avec tout ça, je crois que ça suffit.